Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 36, majestueux Rajasthan, première partie. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazzarotto et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir à nouveau dans l'émission Monsieur Thierry Robinet, que les auditeurs fidèles connaissent forcément puisqu'il a participé à de très nombreux épisodes dans l'émission. On a beaucoup parlé d'Indonésie ensemble, mais également de Birmanie. Et aujourd'hui, il revient en grande pompe, si je puis dire, puisqu'on va commencer avec lui toute une série d'épisodes sur l'Inde des grands chemins, comme il dit, ce pays absolument fantastique et fascinant et qui le fascine et qui me fascine aussi. Donc voilà, ça va être un épisode plein de passion et on a décidé de commencer à en parler ensemble en abordant l'état mythique du Rajasthan, dont vous connaissez forcément le nom, à défaut d'y être déjà allé. Et comme c'est une interview un petit peu fleuve, avec beaucoup de choses à discuter, elle est découpée en deux parties. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec la première partie, avec un circuit qui va commencer à Jaipur et nous emmener jusqu'à Jaisalmer. Ça me fait vraiment très plaisir de commencer à parler de l'Inde avec Thierry aujourd'hui. Bienvenue dans ce merveilleux pays, bienvenue au Rajasthan. Eh bien bonjour Thierry, bienvenue sur les routes de l'Asie.
Bonjour.
Bah écoute, ça fait plaisir de te retrouver parce que ça fait une petite année qu'on t'a pas entendu sur les routes de l'Asie. Tu étais occupé et moi aussi, et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on voulait refaire ensemble des interviews. La dernière fois qu'on avait parlé ensemble, c'était sur Sulawesi. C'était un bel épisode sur cette île indonésienne et ça fait vraiment longtemps qu'on parle ensemble de commencer le grand chantier qu'est l'Inde, qui est un pays que tu aimes particulièrement et puis moi aussi. Un pays fascinant, on s'est demandé par où on allait commencer l'Inde, parce que c'est un pays qui est gigantesque, avec 1,3 milliard d'habitants à peu près, c'est dire, et puis c'est un pays surtout à la richesse historique, culturelle et de tradition qui est quasiment sans égale dans le monde. C'est un pays en général qu'on adore ou qu'on déteste, c'est un pays qui ne laisse pas indifférent, mais je suis assez convaincu qu'aujourd'hui ensemble tu vas nous la faire adorer l'Inde. Et on se demandait donc par quel endroit on allait commencer, puisque je viens de le dire, c'est un pays qui est gigantesque, beaucoup d'États, beaucoup de régions très différentes. Et on s'est dit qu'il fallait quand même peut-être commencer par le Rajasthan, parce que c'est certainement l'État, la région la plus emblématique de l'Inde, la région à laquelle on pense en premier lieu quand on pense à l'Inde. C'est vrai, la plus flamboyante, la plus majestueuse. Donc voilà, on va parler du Rajasthan, vaste sujet. Pour commencer, peut-être explique-nous comment toi, tu as eu cette envie d'Inde la première fois et comment tu as découvert cet immense pays.
Bon ben Romain, merci de me voir rappelé après un an. Ça c'est vrai que un an sans parler, ça me manquait aussi. Donc je suis très content que tu sois revenu me voir pour qu'on puisse reparler un petit peu d'aventure sur les routes de l'Asie. Donc ça c'est sympa. Et comme tu l'as dit, on va parler de l'Inde, donc c'est un vaste chantier. On va dire, il n'y a pas une Inde déjà, il y a des Indes. Hein. À l'époque, on parlait de l'Empire des Indes. Donc moi, j'ai toujours gardé un petit peu cette manière de parler. Bon, moi, je suis arrivé en Inde, ça commence à remonter un petit peu, c'était dans les années 70. Ma première impression, quand j'ai mis le pied en Inde, c'était enfin... Je vais découvrir quelque chose dont j'ai rêvé depuis que je suis tout petit. Et même si je savais pas comment était le monde des Indiens, l'Empire des Indes, il fallait se frotter à quelque chose qui était nouveau. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, Romain, l'Inde, on aime ou on n'aime pas, mais l'Inde ne laisse jamais indifférent. Que ce soit par sa nourriture, on y reviendra plus tard, que ce soit par la foule, dont on n'est absolument pas habitué, que ce soit par les odeurs, les temples, les croyances, les personnes, quoi. Donc, ce qui fait que l'Inde, moi qui ai maintenant voyagé, je pense, sur tous les continents de notre planète, je dois dire que tant qu'on n'est pas allé en Inde, une fois dans sa vie, on ne sait pas ce que c'est que de voyager sur cette terre. Il faut absolument aller en Inde. Donc j'espère que vous me suivez. Hein. Allez un jour en Inde, et si vous commencez à aller en Inde, il faut commencer par le Rajasthan, parce que c'est extraordinaire.
Voilà, on est bien d'accord. Moi, effectivement, c'est là où je suis allé la première fois en Inde. C'était aussi un rêve de commencer cet immense pays par cette région qui a un nom. Le Rajasthan, c'est vrai que c'est vraiment un nom. Et voilà, aujourd'hui, on va faire un voyage, on va faire un circuit avec toi. On va s'arrêter dans tous les endroits qui sont vraiment emblématiques du Rajasthan, mais aussi, on va découvrir des choses moins connues. Donc, il y aura des choses vraiment croustillantes à découvrir avec toi. Pour commencer, je pense que je voudrais te demander qu'est-ce que le Rajasthan représente pour toi. Avant qu'on commence notre circuit, peut-être parle-nous de ce que ça représente, de ce que ça suscite chez toi, et puis de quelques anecdotes ou de quelques histoires que tu aurais éventuellement à partager sur ta découverte du Rajasthan la première fois.
Voilà, donc aujourd'hui nous parlons du Rajasthan. Le Rajasthan, c'est l'état de l'Inde. Je crois que quand on arrive en Inde, il faut commencer par quelque part. Donc par où on va commencer? Par l'état du Rajasthan, qui est dans son désert, entre ces montagnes des Aravallis, qui sont parmi les plus vieilles montagnes de la planète. Et en plus, bon, le Rajasthan a une histoire qui est sans commune mesure avec ce que l'on peut voir dans les autres états de l'Inde. L'Inde, on va y revenir après dans d'autres émissions, est un pays-continent absolument fabuleux, phénoménal, avec plus de 700 langues, une diversité ethnique comme il y a peu sur cette planète. Et au Rajasthan même, donc à travers ses villes impériales, à travers son histoire de lutte, de territoire, de bagarre entre Rajputana, de bagarre entre pour conserver la religion hindoue et contre les envahisseurs qui venaient d'Occident ou venaient d'Orient ou venaient du nord de l'Himalaya. Donc l'Inde, le Rajasthan a toujours été cet état tampon où il s'est passé beaucoup de choses. Et moi, il est clair que pour moi, c'est peut-être l'un des deux ou trois états qui m'a le plus fasciné. Pourquoi? Parce que d'abord, déjà, il y a peu d'endroits au monde où on voit autant de palais et de forteresses qu'au Rajasthan. C'est un pays qui est désertique, donc qui fait frontière avec le Pakistan. Donc le Pakistan est pas très loin quand on est, après avoir parlé de Jaisalmer, qui se trouve à 70 kilomètres. Donc on est déjà dans des terres où il se passe quelque chose. Pour moi, le Rajasthan représente vraiment cet âge des bâtisseurs, parce qu'ils ont construit des palais de toute beauté, et l'esprit chevaleresque des Rajputs qui eux-mêmes, quand on se promène dans le Rajasthan, vont vous raconter des histoires extraordinaires de bagarres ou de liens, de discussions entre Rajputana. Et puis moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est la beauté des gens dans le Rajasthan. Les femmes, alors, sont d'une beauté sublime. Il suffit d'aller dans certains palais, on va y revenir. Moi, je me rappelle, par exemple, juste pour anecdote, à Balunda, alors que j'étais dans une émission TV, on faisait un film sur les Dzenana, donc les palais de Maharaja, le harem, comment les femmes vivaient. Et j'ai été introduit devant des femmes à la beauté sublime, comme on voit dans les films à Bombay, quoi, le Bollywood. Alors moi, j'ai été scotché, hein, parce que quand on reste enfermé dans un palais comme à côté de Jodhpur, pendant une semaine avec une troupe de jeunes filles, toutes plus belles les unes que les autres, qui étaient chargées pour nous de recréer un dzenana, de recréer un harem, comment les femmes vivaient entre elles, comment elles se comportaient, je peux vous dire que c'était quelque chose, fallait s'accrocher, hein. Voilà. Moi, je connais des Maharajas, le Maharaja de Nawalgar, par exemple, qui m'invitait à chaque fois que je passais, parce que je travaillais dans le tourisme aussi, j'ai fait beaucoup de voyages découvertes au Rajasthan. Et ceci depuis le début des années, au milieu des années 70. Quand j'allais chez le Maharaja de Nawalgar, j'avais toujours ma chambre qui était à côté de sa chambre, donc sa chambre privée, personnelle. Et il m'invitait tous les après-midi à 4 heures. Pour prendre le thé. Donc il avait un petit roquet, je me souviens, un petit chien tout blanc qui arrêtait pas de me gueuler après sous la table. Et on prenait le thé, alors avec les petits biscuits Nabisco que j'ai toujours mangé en Inde et je pense qu'on le retrouve toujours dans les petits magasins. Et on buvait le thé à 5 heures et on parlait de la magnificence des Maharajas. Donc quand vous avez un Maharaja qui est à côté de vous, devant vous, qui était d'un certain âge et qui vous parlait de ses ancêtres, de sa vie, je peux vous dire que c'est quelque chose quand même qui n'est pas commun. À travers tous mes voyages, il est certain que dans le Rajasthan, comme je vous disais pour certaines émissions TV, j'ai rencontré des Thakurs, donc qui sont des princes, Parce qu'en Inde, il y a les Maharaj, et il y a les Raja, et il y a les Thakur. Donc les Thakur, c'est des princes, mais plutôt sur une région bien particulière, qui n'ont pas un territoire très étendu, mais qui ont un aura et une puissance locale qui est absolument, qui est importante. Et donc il y a tout le peuple, les vassaux, on va dire, qui sont au pied du Maharaja. D'ailleurs, le village est construit tout au pied du fort qui domine la vallée. Et quand on est chez ces Thakur et qu'on se promène avec le Thakur qui sort avec sa canne en pommeau d'argent et rentre dans le village, mais tout le monde est couché par terre. Donc c'est quelque chose qui, moi, je n'ai jamais vu nulle part ailleurs. Donc j'en ai vécu des histoires, je peux vous dire, en Asie, mais là, le Rajasthan a toujours laissé des traces profondes dans les expériences qu'on peut avoir. Vous arrivez dans un palais, que ce soit à pied, en mobylette ou en bus même, en voiture. Vous avez les gars qui, avec les trompettes, sont à l'entrée du palais comme ça et sonnent les cloches, comme si c'était la reine d'Angleterre qui arrivait. Et il y a quelqu'un qui sort, une femme en général, qui va vous mettre la tika, le troisième œil, sur le front. Et vous rentrez dans la magnificence. C'est absolument génial. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on rentre dans un palais comme ça, surtout au fin fond du Rajasthan, dans la campagne, vous avez vraiment l'impression de vous retrouver au XIIIe siècle, au XIIe siècle, parce qu'il y a les chameaux, vous voyez les chevaux, on voit encore les anciennes étables à éléphants, et ça c'est marquant. En plus, les princes eux-mêmes, bon, habillés en plus avec leur grande kurta indienne, ils ont gardé leur grande moustache à la Rajput, la moustache qui remonte un peu à la façon de Salvador Dali, et qui vous regarde avec leurs yeux bleus ou leurs yeux verts. On est scotché. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a juste à regarder, à sentir. Et après, on vous emmène dans le château. Des fois, des moments où vous avez des tours. Donc, on vous met là-haut. La chambre est au sommet de la tour. Et de votre chambre, vous regardez le désert. C'est majestueux. Donc ça, pour moi, peut-être au départ, c'est ce qui représente le Rajasthan. C'est le vécu dans les châteaux. Quiconque ira au Rajasthan et fera un circuit dans le Rajasthan, je pense qu'il se rappellera de ça. Il se rappellera de la magnificence des châteaux, comment on y vit, comment on est reçu, et le grandiose de la situation. Ça, c'est important au Rajasthan. Et moi, la première année, quand je suis arrivé dans la fin début des années 70, j'avais lu des tas de choses, comme Tintin, par exemple. Tintin est une de mes lectures préférées. Pourquoi ? Parce que Tintin, il a voyagé à travers le monde. Hergé a montré la magnificence des pays sur lesquels, lui, il avait ses propres idées. Donc, à travers Tintin, le capitaine Haddock et tout ça, donc on a vu des pays, on a vu des palais, on a vu des gens, on a vu un mode de vie, déjà à travers une bande dessinée. Et ça, tout ça, ça avait déjà marqué mon imaginaire. Donc, quand je suis arrivé au Rajasthan pour la première fois, c'est sûr que je suis arrivé à Delhi. Delhi, c'est pas au Rajasthan, c'est la capitale de l'Inde, mais on est obligé de passer par Delhi, qui est une ville immense, une des plus grandes villes du monde maintenant. Mais c'est la porte ouverte sur le Rajasthan. C'est vrai que j'étais pas préparé à aller au Rajasthan, parce que pour moi, j'avais qu'une direction, c'était aller à Katmandou. Je veux pas dire que je suis un ancien baba, un ancien hippie, mais quelque part, j'avais ça en moi-même. Et j'ai vu le Rajasthan, mais bon, je n'ai fait que l'effleurer. Et c'est vraiment en commençant dans le tourisme, et après en ayant fait pas mal d'émissions télévision, que je suis rentré au plus profond de l'Inde et au plus profond du Rajasthan. Donc voilà, les histoires se sont déroulées et c'est ce que je vais encore vous raconter là tout de suite.
Voilà, on est déjà assez fasciné par ce que tu viens de nous dire et par les sentiments que tu viens de partager. C'est vrai que moi-même, je suis allé au Rajasthan il y a à peu près 4 ans pour 2 semaines, premier voyage en Inde. Et je reconnais, je suis assez d'accord, c'est quelque chose qui rentre en vous et qui ne part plus. Les sensations que vous vivez là-bas, les senteurs, les couleurs que vous voyez et puis la force de ces châteaux, de ces forts, elles restent en vous. Et elle vous imprègne. C'est vrai que c'est une partie de l'Asie qui est assez unique à ce niveau-là. Alors, je pense qu'on est obligé de commencer par Jaipur, qui est la capitale du Rajasthan. Qu'est-ce que Jaipur, pour toi, évoque ?
Ben, Jaipur, en étant la capitale du Rajasthan, on peut dire que quand on arrive dans cet immense état, qui est l'un des plus grands de l'Inde, c'est la première ville impériale. C'est la première qu'on découvre. Donc, automatiquement, elle est importante. Et en plus, elle a cette façade extraordinaire sur une des grandes rues principales de la ville de Jaipur, c'est Hawa Mahal. La cité rose, déjà. Jaipur est la cité rose parmi toutes ces villes impériales du Rajasthan. Hawa Mahal, donc, c'est ce mur tout décoré, travaillé, de fenêtres, etc., qui donne sur la rue rose et qui fait partie du palais du Maharaja de Jaipur. Donc déjà, Hawa Mahal, c'est extraordinaire. Rien que pour ça, il faut aller à Jaipur. Rien que pour voir Hawa Mahal, de la rue. Bon, ce palais est immense, on peut bien l'imaginer. Donc à l'intérieur, vous avez le Jantar Mantar, qui est donc là où les astrologues arrivaient à calculer la distance de la Terre au ciel, etc., les étoiles. Et puis vous avez aussi l'immense musée, où là, il y a une collection extraordinaire d'objets, de carrosses, de lances, de tout ce qui appartenait à la guerre et à l'imaginaire aussi des Rajputs se retrouve dans ce musée fabuleux, avec en plus un peu l'Empire des Indes qui est mélangé à tout ça. Moi, je me souviens, il y a, ça doit faire quelque chose, 10-15 ans, on tournait avec mon ami Bernard Guérini, on voulait faire un film justement sur les Zénanas, les femmes de prince auxquelles j'ai parlé, et j'ai voulu rentrer en contact avec Gayatri Devi, qui était la fille du Maharaj de Jaipur, et pour justement qu'elle me parle de ces Zénanas, donc de ces harems. En Inde, on dit un zenana. Harem, c'est le mot musulman, en fait. Et bon, je suis passé par son aide de camp, son secrétaire, qui m'a répondu tout de suite. D'ailleurs, j'ai toujours gardé la lettre, parce que ce sont des lettres qui sont extraordinaires, ça. Et il m'a répondu, nous vous remercions de tout l'intérêt que vous portez donc aux coutumes du Rajasthan. Mais malheureusement, Sa Majesté Gayatri Devi ne pourra vous recevoir parce qu'elle est très occupée par ses... au quotidien à gérer donc la vie du palais et à gérer le Rajasthan, parce que c'est comme si elle était un peu chef d'État du Rajasthan, une femme très importante. Gayatri Devi était une des femmes les plus belles de l'Inde. Elle a été, je pense, elle aurait pu devenir une Miss Monde. Et je crois que c'était les Anglais, Lord Mountbatten, je ne sais plus qui est-ce qui disait que Gayatri Devi était la plus belle femme qu'il avait rencontrée au monde. Je le crois aisément, parce que quand on voit les belles indiennes, que ce soit dans les films de Bollywood ou dans les palais, comme j'ai raconté tout à l'heure, je peux vous dire que vraiment, les femmes sont les plus belles au monde. Son aide de camp m'a dit, donc, oui, la princesse ne pourra pas vous recevoir, donc, malgré tout, mais si vous voulez, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour le film, si l'on peut vous renseigner, s'il vous plaît, ben, venez nous voir à Jaipur. Bon, il n'était pas simple on pouvait pas rencontrer Gayatri Devi, donc il n'était pas simple de voir l'aide de camp. Donc avec Bernard, on s'était tourné plutôt sur Jodhpur, où là on avait sélectionné, je me souviens, un château, le palais de Luni, qui est au sud de Jodhpur, et où là on s'était enfermé, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant une semaine dans le château de Luni, qui appartient quand même aux frères du Maharaja de Jodhpur et la Maharanée du Cachemire. Donc la Maharanée était là, c'est elle qui nous a mis en contact avec une troupe. Et là, moi j'ai fait c'est un des films les plus beaux qui m'ait été donné de faire en Inde. Donc voilà, parce qu'il se passait beaucoup de choses. En plus, les interviews étaient assez exceptionnelles. Voilà Jaipur. Et à côté de ça, il y a l'ancien fort d'Amber aussi, qui est donc au nord, de la ville, où là, vraiment, c'est l'ancien palais aussi des anciens Maharajs, où on monte à dos d'éléphant. Et c'est vrai que c'est une citadelle aussi qui est immense, un peu posée comme ça sur ces rochers. Et on y arrive un peu dans un début de gorge. Et c'est vrai que c'est très visité, mais ça vaut quand même la peine de voir comment était l'univers à l'intérieur des immenses salles, notamment le Palais des Glaces. Donc on s'y perdait, on se voyait partout. Donc si vous mettiez des bougies dans ce Palais des Glaces, ça scintillait dans tous les sens. Ce qui reste dans le palais du Fort d'Amber, justement, moi ce que je retiens, c'est ça. C'est cette magnificence du grandiose et des salles qui n'avaient pas de fin, quoi. Pour moi, c'est ça. Et à côté de ça, Jaipur, bon, c'est la rue. les milliers de petits magasins. C'est là où on trouve tout le un patchwork, tout l'artisanat Rajput se retrouve dans les rues. Et notamment aussi, c'est le pays des argentiers, où l'on travaille les pierres précieuses, l'argent et l'or, d'une manière très professionnelle. En ce qui concerne la nourriture, c'est sûr que l'on aille partout un peu dans le Rajasthan. Je pense qu'on en parlera plus tard dans l'émission. Parce que la nourriture, c'est aussi quelque chose de l'Inde qui est très particulier. Je ne vais pas dire on aime ou on n'aime pas la nourriture indienne, parce que la nourriture indienne est extraordinaire. Mais c'est vrai qu'au bout de quelques jours, parfois, certaines petites senteurs et saveurs des épices peuvent très bien mal passer sur nos estomacs d'Européens.
C'est sûr, la nourriture indienne, c'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'une émission. Alors, c'est pas facile de parler de nourriture comme ça, sans voir, ou en tout cas sans goûter. Mais c'est vrai que c'est assez fabuleux, on pourra certainement en reparler. Alors, si on continue notre séjour au Rajasthan, là, on est à Jaipur, donc qui est au sud-ouest de Delhi. Et si on continue un peu plus à l'ouest, il y a un lieu moins connu dont tu tenais vraiment à parler, c'est Chekhawati. Alors, parle-nous un petit peu de Chekhawati, qu'est-ce que c'est ?
Ben, la province du Chekhawati est une province qui est très très mal connue et elle contient des immenses trésors artistiques, je veux dire même pas que du Rajasthan mais de l'Inde. Ce sont des villes, je parlais tout à l'heure du Maharaja de Nawalgarh. Nawalgarh se trouve au Chekhawati, donc vous avez Nawalgarh, Dunlod, des villes qui étaient finalement les villes les plus importantes. Et c'est là que l'on retrouve les plus belles havelis, c'est-à-dire des palaces de riches marchands de l'Inde. À une époque où l'Inde avait un commerce entre le Pakistan, entre l'Est, l'Ouest, etc., le sud de l'Inde, les commerçants, devenus de plus en plus riches, avaient décidé de s'installer dans une région. Donc ils étaient particulièrement tous du Chekhawat, parce que le Chekhawat c'est une région de commerçants. Donc ces immenses havelis, qui appartenaient donc aux riches marchands, ont été décorés. Décoré, je veux dire, de la tête aux pieds, les murs en extérieur, les portes, les intérieurs et tout, de scènes de la vie du Ramayana, des épopées hindouistes et des épopées du temps de l'Empire des Anglais, où on voit parfois même des voitures sur les dernières havelis au début du XXe siècle, avec les Anglais avec le chapeau sur la tête, des gares avec des trains. Et puis à côté de ça, on voit toute la vie du Ramayana, donc Rama, Sita, Shiva, Brahma, Vishnu, tout ce que l'on veut. Et ça, c'est fabuleux. Alors les havelis, beaucoup de riches marchands sont tous partis sur Delhi, la capitale, où ils continuent à vivre là-bas. Et c'est un petit peu abandonné. Maintenant, avec le renouveau de l'Inde, je ne dirais pas que touristique, au niveau même économique, les gens reviennent sur ces havelis et certaines vont être transformées en hôtels. Et je peux vous dire que ça sera absolument fabuleux. Donc, moi, ce que j'aime au départ, donc, c'est de, par exemple, d'être au palais du Maharaj de Nawalgarh. Vous sortez dans la rue, c'est tout juste si le Maharaja ne va pas tirer au canon pour vous dire bienvenue. Et dès que vous n'avez pas fait 100 mètres, ça y est, vous êtes à l'intérieur de villes ruelles, une fresque. Donc vous avez des photos à faire partout. Toute la vie de l'hindouisme se déroule devant vos yeux sur les murs. Pour moi, le Chekhawati, pourquoi est-ce que j'aime le Chekhawati ? C'est que Chekhawati se trouve dans une région qui s'appelle les Aravalis. Les montagnes des Aravalis sont... toute la chaîne des Aravalis coupe l'Inde, on va dire. Le plateau du Deccan, tout ça, c'est une des plus vieilles montagnes du monde. Et sur ces plateaux du Chekhawati, c'est complètement inconnu. Et il y a plein de temples accrochés à la montagne, dans des gorges, où il y a des babas qui habitent avec des singes dans des temples. Moi, j'avais pris l'habitude à une certaine époque de partir faire des treks de 3 ou 4 jours dans le Chekhawat. Et c'est complètement oublié. Même aujourd'hui, en 2016, il n'y a plus personne qui va faire des treks au Chekhawati. Et moi, je recommande à tout le monde d'aller faire un tour là-bas. Partir de Nawalgarh, par exemple, dormir au palais de Nawalgarh et aller sur Lohargal, Malion Kidani, Shakambari, qui sont des coins magiques. Je me souviens dans la montagne, vous passez dans des traits où il y a personne, il y a 2-3 Indiens qui passent, qui vous regardent, ils disent qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là. On trouve des améthystes dans la montagne, plein d'améthystes. Il suffit de regarder par terre des moments, des pierres précieuses, des améthystes. Vous dormez le soir dans les temples avec les babas. Bon, il y a des singes qui viennent des fois vous piquer dans votre sac, mais bon, faut faire attention. Et vous allez tous les soirs à la puja. Alors, avec les cloches qui sonnent à partir de 5 heures. Dong, 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 dong. Ah, l'heure de la puja. On y va. Et puis après, vous allez manger avec les prêtres, manger les chapatis avec le dalbat. Repas régulier, toute une vie pour les gens qui vivent comme ça, retirés un peu en reclus dans les temples. Et je peux vous dire que ça, c'est quelque chose qui, moi, me fascine. Me plaît, et c'est vraiment une autre, c'est une façon de rencontrer l'Inde aussi. On est dedans, quoi. Donc on vit pas comme ailleurs. Il y a qu'au Rajasthan que j'ai vu ça. Je suis allé dans plein d'états de l'Inde. Oui, quand on va dans le centre de l'Inde aussi, on voit ça. Le sud est complètement différent. Ça sera l'objet d'une autre émission. Mais au Rajasthan, quand on va dans des zones comme ça, dans les montagnes des Aravalis, paumées, elles vivent dans des petits coins, dans des petits temples. C'est fort, très très fort. Et ailleurs, comme par exemple à Balunda, qui est un petit village aussi perdu, que personne ne connaît, que le tourisme a oublié. Vous vous arrêtez, vous êtes à pied, vous baladez avec le Maharaj du coin, ou même un gars du village pour aller voir un petit temple, vous tombez comme ça sur un sadhu. Un sadhu qui est sous un arbre, dans une petite baraque de 2 mètres sur 3, et qui passe sa vie ici. En méditation et tout. Bon, vous lui donnez une pièce ou vous vous asseyez. Certains parlent anglais d'ailleurs, c'est toujours intéressant. Et bah, ils vous racontent leur vie. Mais bon, leur vie à eux, elle est dédiée à Shiva, à Brahma, à Vishnu. Elle est dédiée à la méditation, au silence, à la non-réflexion, je veux dire. Mais bon, leur réflexion, elle est toute intérieure, elle est là. Donc, quand on rencontre des sadhus comme ça, des babas dans des petits temples, le mieux, c'est de ne pas parler, c'est de s'asseoir, regarder, et puis surtout écouter le silence. Et ça, dans certains coins du Rajasthan, moi, c'est ce que je retiendrai aussi, c'est ce qui m'a marqué très souvent.
Ouais, les sadhus, c'est vrai que ça fait partie des rencontres les plus incroyables qu'on puisse faire en Inde, parmi les plus photogéniques aussi, parce qu'ils ont voilà, un physique, une allure, une aura aussi autour d'eux qui est assez incroyable. Alors on va se déplacer encore un peu plus à l'ouest, en direction du Pakistan, on va vraiment frôler la frontière pakistanaise, et la prochaine étape c'est la ville de Bikaner, on rentre déjà bien dans le désert là. Hein.
Voilà, Bikaner se trouve presque à l'extrême ouest de l'Inde et du Rajasthan, donc là déjà on arrive dans le désert du Thar. Donc Bikaner a été une ville très très importante à l'époque, à la grande époque des Maharajas, puisque le Maharaja de Bikaner est encore un des hommes les plus riches de l'Inde. Son palais est immense, immense, c'est quelque chose. Je me rappelle d'avoir eu un groupe une fois, j'avais 8 filles dans mon groupe, j'étais le seul garçon, et comme c'était pour Noël Jourdan, elle m'avait déguisé en Maharaja, donc j'étais habillé en Maharaja, c'était assez rigolo, et on avait chanté des homes dans la piscine souterraine du palais du Maharaja de Bikaner. Le son qui en est sorti était fabuleux, des homes, alors ça c'est quelque chose dont je me rappelle. Sinon Bikaner, en dehors de son palais, n'est pas une ville qui a une importance. Elle avait son importance à une époque parce que c'était une ville qui était sur la route des caravanes, tout comme l'était Jaisalmer, dont on va revenir après. Il y a quelque chose qui est intéressant, juste à la sortie de Bikaner, c'est le Camel Farm. C'est là où il y a une immense ferme, où il y a des milliers de chameaux dont on s'occupe au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose, quand on n'a jamais vu un chameau de sa vie, enfin, on dit chameau parce que les Indiens disent chameau, mais en fait, ce sont des dromadaires. Hein. D'accord, on va se reprendre. Donc il y a la plus grande ferme de dromadaires de tout le Rajasthan. Et un peu plus au sud de Bikaner, il y a un temple qui est extraordinaire. Un des temples les plus extraordinaires de l'Inde, c'est le temple de Deshnok, le temple au rat. Parce que le rat est considéré comme un animal noble en Inde, puisque c'est le véhicule de Ganesh, véhicule du dieu Ganesh. Donc vous imaginez, quand on sait qui est Ganesh, fils de Shiva et de Parvati, et que chaque dieu du panthéon hindou a un véhicule, donc le véhicule de Ganesh est un rat. Donc dans ce temple de Deshnok, quand vous rentrez, donc c'est un temple qui est dédié aux rats, donc on est obligé d'enlever ses chaussures, et je peux vous dire que vous avez des je vais peut-être pas dire des milliers, mais des centaines de rats qui courent dans tous les sens, qui vous passent sur les pieds, mais il y en a qui sont gros comme des chats. Et donc, à certaines heures de la journée, on leur met des grandes bassines de lait, mais une bassine qui doit faire la largeur d'une table, au moins 1 mètre, 1 mètre 50, et vous avez tous les rats qui se mettent tout autour, comme ça, la tête dans le lait, et qui se mettent à boire. Alors ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire à voir. Déjà, temple unique, donc à temple unique, visite unique, je vais dire. Donc si un jour vous allez à Bikaner et que vous avez envie de visiter ce coin reculé du Rajasthan, eh bien, allez à Deshnok, vous ne le regretterez pas. Moi, il y a un coin aussi que j'aime beaucoup, à quelques kilomètres au sud de Bikaner, c'est le palais d'été du Maharaja de Bikaner, c'est-à-dire la maison d'été de Gajner. Moi, c'est un endroit qui m'a toujours fasciné. Il y a un petit lac avec des oiseaux par milliers qui viennent boire au petit matin. On voit même des sambars, c'est-à-dire des cerfs, des daims qui viennent au bord du lac comme ça. C'est absolument fabuleux. Et j'ai toujours dit d'ailleurs, lorsque j'écrirai mon livre, parce que j'ai tellement d'histoires à raconter de tout ce que j'ai fait, il faudra qu'une partie soit écrite au palais de Gajner. Et je revois ma chambre encore qui donne sur le lac, un endroit où méditation et création sont fabuleuses. Mais bon, on verra. Voilà, donc pour moi, Bikaner, c'est quelque chose, c'est loin. Quand on part dans un coin comme le Rajasthan, c'est beaucoup de kilomètres. Parce que de Jaipur, pour aller à Bikaner, il doit y avoir quelque chose comme 300 kilomètres. Donc, c'est pas facile. Il faut prendre du temps. Donc, quand on part à travers ce Rajasthan, si on n'a que quelques jours de vacances, bon, il faut bien cibler son voyage. Sinon, vous êtes parti pour un mois et plus. Et être prêt à faire des milliers de kilomètres. Mais je peux vous dire que ça en vaut la peine.
Ouais, j'en suis bien conscient. C'est vrai que le temps, il est important. Un voyage au Rajasthan, de toute façon, en 2 semaines, vous aurez le temps que de faire les choses les plus connues. Moi, en 2 semaines, je n'ai pas eu le temps d'aller à Bikaner. Je regrette maintenant, vu ce que tu nous expliques. Alors, on va continuer le voyage et se déplacer maintenant beaucoup plus à l'ouest, vraiment à la limite du Pakistan, à peu près 70 km du Pakistan, en plein cœur du désert du Thar, que tu as déjà mentionné. Il y a cette ville assez fantastique, assez emblématique aussi du Rajasthan, qui est loin, mais ça vaut vraiment le coup de pousser un petit peu les kilomètres et puis de s'y rendre. C'est Jaisalmer, avec une vieille ville magnifique et surtout son fort, et puis des dunes qui nous font penser parfois au Sahara, mais on en est bien en Inde. Donc c'est là où le désert du Rajasthan est le plus visible. Donc c'est Jaisalmer. Jaisalmer, comment commencer à en parler ? Parce que c'est quand même aussi une ville très importante.
La route de Jaisalmer, pour moi, ça, elle a une connotation particulière, parce que je me rappelle, il y a bien 10 ans maintenant, j'avais organisé une course de 333 km, course à pied, qui partait du palais du Maharaja de Bikaner et qui arrivait 333 km plus loin, exactement à l'entrée de Jaisalmer. C'était un challenge. Quelle personne était assez folle pour se lancer sur une expé comme ça de 333 km sans arrêt, sans s'arrêter. Tous les 22 km, on mettait des tentes pour les gars, ils pouvaient manger, dormir un petit peu s'ils voulaient, se reposer et arriver au bout surtout. Donc moi, j'étais dans l'organisation. Je me souviens, il y avait mon frère qui était là, qui était arrivé 6e d'ailleurs. Bravo Marco. Donc pour moi, ça m'a marqué parce que j'ai pu découvrir, j'avais une Jeep moi pour préparer, j'ai pu découvrir toute cette route du Rajasthan à travers des chemins qui passaient dans le désert, dans des petits villages où ils n'avaient jamais vu personne, à utiliser parfois la route parce que c'était pas possible autrement, certains coureurs me disant qu'ils avaient été attaqués par des bêtes sauvages, notamment les chacals ou les chiens sauvages qui sont très dangereux au Rajasthan quand on dort la nuit ou qu'on court la nuit où il n'y a personne. Donc pour moi, c'était une aventure. Donc c'est 333 km. Je les connais, entre Bikaner et Jaisalmer. Bon, quand on arrive à Jaisalmer, Jaisalmer, c'est la cité ocre, c'est la cité du désert, donc très importante parce qu'elle était sur la route des caravanes de la soie. Donc on peut supposer, parce que je n'y étais pas de toute façon, que Marco Polo y est passé, Kubilai Khan y est passé, Genghis Khan y est peut-être passé, tous les grands marchands qui partaient de Chine et qui allaient sur la mer Arabique s'y sont arrêtés. Donc c'était absolument fabuleux, quoi. Donc c'est une cité qui a marqué. Déjà, c'est vrai que la région est très désertique et que quand on arrive sur la route, au loin, d'un seul coup, on voit un rocher, comme une météorite posée au milieu du sable. Et vous avez cette forteresse ocre. Donc plus on approche, on commence à voir les des tours, on commence à voir les créneaux de la forteresse. Et c'est là qu'on se dit, ça y est, on arrive à Jaisalmer. Donc c'est quelque chose, qu'est-ce qui s'y passe dedans, qu'est-ce qu'il y a? Je sais que depuis 10 ou 20 ans, Jaisalmer a quand même changé, le tourisme a fait son avancée, il y a pas mal d'hôtels qui se sont construits sur les extérieurs, parce qu'il fallait bien, parce qu'il y avait pas d'endroit où dormir. Mais malgré tout, Jaisalmer a toujours conservé son style. Il est là. On voit arriver les gars qui arrivent du désert sur leur dromadaire, rentrer dès qu'on rentre dans la forteresse avec ces rajpoutes qui ont le turban sur la tête avec leurs yeux verts ou bleus qui vous regardent comme ça, qui vous toisent. Je peux vous dire que c'est quelque chose, habillés de blanc avec leurs chaussures en cuir de chameau. Ça c'est tout le Rajasthan. Donc moi j'ai l'impression que quand je rentre dans la forteresse, si on va se perdre un petit peu dans des petites ruelles ou près des murailles, je peux vous dire que je me crois encore en 1350. Donc c'est ça. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, quand on part au Rajasthan, on part faire un voyage dans le temps. Et c'est ça, on déconnecte. On se déconnecte de notre vie moderne pour aller à la rencontre d'une autre vie. Et le Rajasthan, pour ça, en est pleinement l'exemple. Donc c'est pour moi un des pays d'Asie, un des endroits d'Asie où on déconnecte le plus, quoi. Voilà, donc ça c'est important. Et Jaisalmer à côté de ça, en dehors du fort, c'est pareil, c'est un peu comme dans le Shekhawati, il y a des havelis qui sont extraordinaires, palais de riches marchands qui depuis l'époque des grandes caravanes qui passaient et allaient sur la mer Arabique, ont laissé des traces, donc des gens ont fait fortune à cet endroit-là, et les havelis comme le Patwa Ki Haveli, qui est un des plus grands de Jaisalmer, valent la peine que l'on s'y arrête, que l'on y rentre à l'intérieur et que l'on aille se paumer un petit peu dans les immenses pièces. D'ailleurs, on ne sait même pas combien il y a de pièces, il y en a des centaines. Et de plus, avec les petits balcons qui sont sur les bords, finement décorés et tout, qui ont un style un peu à la fois Rajput et à la fois mort, on va dire. Je crois que c'est unique. Vous passez dans des petites rues avec des arcades à l'intérieur, où là, vous avez des marchands qui vont vous vendre, bien sûr, des petites pierres précieuses ou des objets d'artisanat. Mais je peux vous dire que Jaisalmer vaut la peine qu'on s'y arrête et vaut surtout la peine qu'on fasse les 300 km d'où que l'on vienne, que ce soit de Jodhpur ou que ce soit de Jaipur ou de Bikaner, vaut la peine qu'on aille voir cette cité du désert. À l'extérieur, il y a des choses qui sont assez extraordinaires. D'abord, c'est le lac Gadisagar qui se trouve juste à l'extérieur des Ghâts, où là, au soleil couchant, il y a des lumières somptueuses. Donc allez boire à la limite une bière au bord du Gadisagar, vous l'achetez dans un petit magasin à côté, vous allez vous asseoir et vous regarder, vous verrez. Jaisalmer, cité du désert, c'est la cité du désert. Donc pas très loin de la ville, il y a le Desert National Park, donc le parc national du désert où on trouve des dunes. Donc c'est en direction du Pakistan, on se retrouve le plus loin qu'on peut aller parce qu'à un moment donné on rentre en zone militaire, donc c'est pas évident. Puisque vous, peut-être que vous le savez pas, mais on en reparlera peut-être sur d'autres émissions en Inde. Entre le Pakistan et l'Inde, il y a eu plusieurs guerres depuis quelques décennies, et donc ça n'a jamais été toujours facile. Après que l'Empire des Indes, quand il est parti, il a mis une frontière comme ça où tous les musulmans étaient mis d'un côté et les hindous de l'autre, ça n'a pas toujours été évident. Alors que toute cette région du Rajasthan, notamment Jaisalmer, il y a beaucoup de musulmans, mais qui sont pour la plupart des commerçants et des musiciens extraordinaires. Comme on en retrouve au Pakistan, les musiciens, ils jouent sur leur sarangi ou ils jouent avec un harmonium. Je peux vous dire que les chants du désert, vous êtes scotchés. Lagoni lag.
Oui, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je recommande fortement, c'est le soir d'aller manger sur un des rooftops. Alors, il y a plein de rooftops à Jusselmer avec vue sur le fort qui est éclairé la nuit, c'est magnifique, et des gens qui viennent vous faire la musique du désert. Enfin, c'est une expérience que j'ai eue personnellement et que, ouais, qui était très très forte, donc je recommande. Ouais.
Bon, voilà, je crois que tu l'as très bien dit, Romain. La musique fait partie intégrante du Rajasthan, fait partie intégrante de ces gens qui vivent dans le désert, et le son, la voix de ces musiciens, c'est rare, très très rare. Moi, je me souviens d'aller au Pakistan, d'avoir vu les Sabri Brothers aussi dans la ville de Karachi. Tout le monde a connu, tout le monde en France, on a connu peut-être, pour ceux qui aiment les musiques orientales, la voix d'un des plus grands chanteurs, je veux dire même presque un chanteur d'opéra, de Nusrat Fateh Ali Khan, qui était pakistanais, et la musique de Qawwali. Donc, dans cette région de l'Inde, dans la région de Jaisalmer, les chanteurs et les musiciens ont cette force dans la voix qui ressemble aux chanteurs de Qawwali. Donc, moi, je sais que c'est absolument bluffant. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vivre dans cette région du Rajasthan. Donc, les dunes de Sam sont les plus connues. Les voyageurs donc qui se déplaceront vers les dunes de Sam, faites abstraction de certains magasins et de quelques vendeurs ou quelques guides qui vont vous courir un peu après. Mais après, quand vous partez tout seul dans les dunes, vous verrez, c'est vraiment, on se croirait vraiment en plein désert. Hein. Donc, c'est extraordinaire. Et moi, il y a un endroit que j'aime beaucoup parce que j'ai fait souvent des méharés. Quand on part comme ça 2 jours ou 3 jours en méharés à l'extérieur, il y a les ruines de Lodorva qui se trouvent à peu près une 15 kilomètres de Jaisalmer, où c'est une ancienne ville qui a été saccagée par les invasions musulmanes au XIe siècle. Mais ce qu'il en reste, quand on fait escale et qu'on y passe la nuit, les gens qui viennent avec vous, ils vont vous mettre des tentes Rajput, vous dormez en plein désert, vous avez les musiciens, vous allez manger les chapatis qui ont été cuits dans le sable et tout ça. C'est magique. Donc ces ruines de Lodorva, au soleil couchant, sont magiques. Voilà. Donc, je ne peux pas dire autre chose. Allez voir.
Eh bien, écoute, Thierry, ces ruines de Lodorva et cette fantastique ville de Jaisalmer dans le désert du Thar, ça clôture d'une très très belle manière notre première partie du voyage au Rajasthan. Il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné d'ailleurs, c'est l'omniprésence des vaches dans cette ville et un peu partout ailleurs au Rajasthan d'ailleurs. C'est assez amusant de déambuler en vélo, en moto, en voiture ou même juste à pied au milieu des vaches. Ça fait partie aussi des attraits pour moi de ce voyage, c'est de voir cette vache qui est évidemment sacrée en Inde, qui occupe vraiment une place comme un individu normal, comme un être humain. On la voit parfois à l'entrée des maisons, même carrément dans les maisons. Certaines fois, c'est assez amusant. Donc voilà, je voulais le mentionner. Le voyage n'est pas terminé, loin de là. On a une deuxième partie qui nous attend avec un très très beau programme. Allez, je lance quelques noms. Jodhpur, Udaipur, Kumbalgar, Ranakpur et puis bien d'autres. Thierry, je te remercie infiniment et puis je te dis à très bientôt pour la deuxième partie.
Ok, merci beaucoup Romain.
Nous voilà au terme de cette première partie de notre merveilleux voyage au Rajasthan. Merci beaucoup à Thierry pour sa participation et j'espère que vous aurez eu comme moi le grand plaisir de retrouver sa voix et sa passion avec sa connaissance et ses anecdotes de voyage sur le Rajasthan. Moi, c'est vrai en plus que l'Inde et le Rajasthan sont des régions dont je raffole et dont je suis passionné. Et j'espère qu'on aura réussi avec cet épisode et puis le prochain à venir à vous donner aussi un brin de passion et de vous avoir donné envie de visiter ce fabuleux coin de notre planète. Pour retrouver tous les noms de lieux évoqués par Thierry, vous pouvez vous rendre comme d'habitude sur la page de l'épisode sur lesroutesdelasie.com/36. Et sur le site, ou même sur les réseaux sociaux et iTunes, vous pouvez toujours laisser un commentaire avec une note, ce qui d'abord me fera très plaisir, et puis bien sûr aidera, comme vous le savez, à faire connaître l'émission à de nouveaux auditeurs. Aujourd'hui, j'ai envie de citer le commentaire de Tahiti Pep, qui est un petit peu long, mais je tiens à le lire jusqu'au bout, et qui dit « Bonjour Romain, je suis votre podcast depuis le début avec passion et avidité. Le ton du programme, les angles choisis, les sujets traités, la richesse du contenu et la qualité exceptionnelle des intervenants, Thierry Robinet, avec qui j'ai eu la chance immense de tourner en tête, font de votre podcast un rendez-vous immanquable, exceptionnel et envoûtant. » et puis la qualité de vos interviews, à la fois imprégnées et discrètes mais pertinentes, et une force d'écoute et de relance que pourraient vous envier nombre de professionnels. Un grand merci et longue vie. Fin du commentaire. Eh bien écoute, j'ai les chevilles qui enflent un peu. Merci beaucoup à toi pour ton commentaire. Je suis ravi que tu aies apprécié les interviews passées et j'espère que tu apprécieras autant cette nouvelle interview avec Thierry que apparemment tu connais. Voilà, donc ça fait très plaisir. Merci à vous pour vos commentaires et puis surtout n'hésitez pas, vous aurez en plus le petit privilège d'être cité dans l'émission. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ce merveilleux voyage en compagnie de Thierry Robinet sur les routes du Rajasthan. Merci beaucoup pour votre écoute, votre fidélité et puis bien sûr, excellent voyage en Asie.
देखूं मैं, देखूं कोई